Filmez-moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet FM. Ravie de vous retrouver à nouveau dans Filmez-moi, votre rendez-vous mensuel cinéma sur Jet, la radio indestructible, toujours libre, curieuse et audacieuse. Alors ce mois-ci, nous parlerons coup de cœur à voir dans vos salles préférées, de l'actualité locale, du cinéma sous toutes ses formes, et nous parlerons aujourd'hui du métier de superviseur du son ou créateur de son avec Geoffroy Canteloup qui est superviseur du son à l'incroyable studio qui se trouve à Nantes, sur l'île du Nantes. Et on évoquera avec lui son parcours, quelques films de son choix. On fera même peut-être du bruit ou plutôt des sons avec des objets que Geoffroy a portés dans son petit panier. Alors Geoffroy, je suis ravie de t'accueillir dans Filmez-moi. Bienvenue à toi.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Suis-je donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais mon enfant, mon seul.
Alors cette chanson, c'est, vous l'avez reconnue sans doute, une chanson de Barbara, Mon enfance, qui figure dans le film Mon film coup de cœur, qui est un film tendre et solaire, un film d'été, en plein hiver, qui fait du bien à nos petits cœurs bousculés par un monde qui tourne pas toujours très rond. Et ce film, il s'appelle Ma frère, de Lisa Coca et Roman Guéret. C'est leur deuxième film, après Les pires, qui est sorti il y a 4 ans. Alors le pitch, c'est l'histoire de deux copines de 19 ans qui vivent à Paris, dans un quartier populaire du 19e. Elles s'appellent Shai et Geneba. L'une, elle est encombrée par une famille assez étouffante et l'autre par une trop grande solitude. Et le temps d'un été, elles sont animatrices dans une colonie de vacances, dans un camping à la campagne, dans la Drôme. Et elles se retrouvent responsables d'une tribu d'enfants de 6 à 10 ans. Elles vont devoir faire des choix, parfois douloureux, pour grandir et puis pour se réinventer aussi en amitié. Et puis, il y a ces petits minots qui les tirent vers le haut. avec leur gueule d'ange et de démon, entre ceux qui se cachent des autres, ceux qui crânent et qui commandent, ceux qui sont attentifs aux autres ou qui les surprotègent. Alors tous, ils vont apprendre à vivre ensemble le temps d'un été, au contact d'adultes jeunes et moins jeunes, tous ces adultes qui savent l'importance de les protéger, de les sécuriser, de leur ouvrir un espace ailleurs. Ces adultes qui eux-mêmes ont eu une enfance parfois fracassée, mais qui croient au pouvoir du collectif. Alors, c'est pas du tout misérabiliste, ça touche au plus juste. Et les scènes cocasses et drôlatiques, elles alternent sans lourdeur avec les moments intimes et émouvants. Et dans ces moments-là, chacun se dévoile. Et les réalisatrices, elles filment au plus près les corps et les visages d'une jeunesse d'aujourd'hui, parfois stigmatisée, de l'enfance joyeuse, triste et profondément vivante. Les enfants, elles les prennent au sérieux. Les sujets de la violence, du harcèlement, de la négligence des adultes, ils apparaissent en toile de fond, de façon assez légère, mais juste, sans aucun jugement moraliste. Les deux actrices principales, Fanta Kébé, qu'on avait vu dans Placé, tout en retenue et dignité, et Shirelle Nataf, qu'on a vu dans Les Têtes givrées, qu'on verra bientôt dans Les Filles du Ciel, sont vraiment impressionnantes. Il y a aussi Amel Bent, qui interprète avec justesse le rôle de la directrice de la colo. Elle forme, avec quelques seconds rôles croustillants, un groupe d'éducateurs profondément attachants. Alors, après leur premier film, Les Pires, déjà situé dans le monde de l'enfance, les réalisatrices, elles démontrent une nouvelle fois leur talent fou pour le casting sauvage et leur capacité d'immersion dans les sociétés enfantines. Les sociétés où les gosses imitent les adultes, eux-mêmes à peine sortis de l'enfance. Et grâce à leur impressionnant sens de l'observation, elles captent le langage désopilant de Minot à l'énergie et au sens de la répartie inégalable. Vivifiant, ma frère déborde de tendresse. Et la tendresse, ça ne se refuse jamais. Alors Geoffroy, est-ce que tu l'as vu? Ou tu en as entendu parler peut-être?
Alors, beaucoup entendu parler. C'est dans ma to-do list, là, j'ai quelques semaines à venir plutôt détente. Et donc, oui, ça fait partie des films.
Alors, il passe au Concorde à Nantes. Commençons maintenant à explorer les choix de mon invité après ça.
Up above, gathered on a field of clouds, crowded alert down in the lowlands, waiting for their time, waiting and calling. Of the field with white set in the teeth of the wind, the old beast, feathered wild beast, masters of the field.
Alors Geoffroy, tu as reconnu ? Je t'ai un petit peu aidé, mais...
Je dirais qu'il manque des battements d'ailes et des cris d'oies.
Exactement. Pour illustrer, alors totalement, donc le film Le peuple migrateur. Donc ce qu'on a entendu, c'est un des sons du film interprété par Robert Wyatt sous la houlette du compositeur Bruno Coulet. Donc Le peuple migrateur, c'est un documentaire français qui a été réalisé par Jacques Perrin, Jacques Clouzot et Michel Debat et qui est sorti en 2001. Il est ressorti en version restaurée l'année dernière, 2025, à l'initiative du fils de Jacques Perrin, Mathieu Simonet, lui-même réalisateur. Alors, ce film, il nous montre la migration d'une trentaine d'oiseaux à travers le monde et leurs escales migratoires, en particulier les oies sauvages, qui voyagent deux fois par an d'une latitude à l'autre. Il a fallu 3 ans de tournage pour monter et montrer ces images spectaculaires. Et l'équipe, elle était composée de plus de 450 personnes. Et l'équipe a tourné avec plusieurs dispositifs pour filmer des oiseaux, ces oiseaux en plein vol, en particulier des ULM assez classiques. Et la production, donc production Galatée à l'époque, a dû aussi inventer et fabriquer 5 machines prototypes avec l'aide de l'incontournable Centre national de la cinématographie, du CNC. Alors, la création de documentaire, ici, on la voit sous l'angle d'une fable naturaliste, finalement. Et les réalisateurs, ils nous proposent d'adopter un nouveau point de vue sur un monde sans frontières, mais dans des lieux identifiables. On voit la Grande Muraille de Chine, le Mont Saint-Michel, Monument Valley. Donc, c'est un film très contemplatif, poétique, où on nous invite aussi à apprécier les mouvements des ailes des oiseaux, leur chant, leur cri, leur sens du collectif, loin des tumultes du monde des humains, dans le bruit, la fureur. Alors Jacques Perrin, qui est disparu en 2022, il formulait ainsi son projet. Et si nous nous rendions compte que nos frontières n'existent pas, que la Terre n'est qu'un seul et même espace, et si nous apprenions à être libres comme l'oiseau ? Alors le montage, les prises de son sont époustouflants. D'ailleurs, le film, il avait reçu le César du meilleur montage en 2002 et l'Oscar du meilleur documentaire en 2003. Jacques Perrin, il a ouvert la voie à beaucoup d'autres réalisateurs de films animaliers sortis en salle. Et je trouve que la spécificité des projets de Jacques Perrin, c'est qu'il met vraiment la nature au centre. Il ne se met jamais en scène. Et c'est vraiment la nature dans toute sa splendeur qu'il nous invite à découvrir, à admirer avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Alors Geoffroy, pourquoi ce choix ?
Parce que ça a été parmi les premiers films qui m'ont bousculé sur le... J'ai toujours été sensible à la cause animale et là, les cris des animaux sont les dialogues. On est plus porté par le montage, par la musique. Je pense que ça se ressent dans la musique qu'on a écoutée juste avant. De montrer ce qu'est un oiseau, sa sérénité, les épreuves qu'il passe, qu'il ne dort pas la nuit alors qu'il est en pleine migration, qu'il passe des montagnes très très hautes pour reproduire éternellement ce cycle.
Oui, c'est ça.
Donc c'est assez fascinant en fait comme d'être comment dire au plus près des animaux et je pense que beaucoup de réalisateurs de documentaires animaliers, de films animaliers sont dans cette quête de capter la vérité et ça nous remet nous un petit peu au même niveau que les animaux et ça nous permet vraiment d'apprécier je sais pas, le magnétisme de la Terre pour savoir comment ils se dirigent, comment ils arrivent à se nourrir. Et ça nous, je pense, sensibilise plus à cette cause-là.
Mmh. Alors, tu m'as confié que tu aimerais bien faire un film animalier. Ce serait dans quel environnement, en fait, si tu pouvais le faire ?
C'est essentiellement par rapport au bruitage, parce que voilà, pour différentes raisons... on n'a pas toujours la chance d'aller capter le son que font les animaux. Dans certains réalisateurs naturalistes sont très très précis. Je pense à Vincent Munier par exemple.
Vincent Munier qui a fait
Le Chant des Forêts.
Le Chant des Forêts qui est toujours à l'affiche d'ailleurs.
Voilà, la Panthère des Neiges juste avant. Lui, il va essayer d'aller chercher le son au plus proche, mais il y a, et ça faut le savoir, sur beaucoup, beaucoup de films animaliers, beaucoup d'éditing, de montage qui sont faits après. Donc ça demande beaucoup de recherche, d'aller savoir quel animal fait quel bruit, quel cri, pour pouvoir le monter et redonner l'intention du moment qui a été filmé. Mmh. Cette étape de recherche et de précision est déjà assez passionnante. Et ensuite, par le bruitage, on vient recréer aussi les mouvements de l'animal. Je pense à une famille de lions qui serait filmée au milieu de l'Afrique. Il va falloir recréer tous les mouvements de pas, pareil pour un éléphant, etc. Parce que un preneur de son n'a pas pu être suffisamment proche.
Oui, c'est pas toujours possible de filmer le son au moment T en direct. Et est-ce qu'il y a un équipement particulier pour la prise de son, si elle est possible en direct ?
Il y a un procédé qui consiste au micro-parabolique qui permet d'aller chercher une source qui est très loin. On fait aussi des pièges sonores. On laisse tourner, accroché à un arbre, un couple stéréo par exemple, et on attend en fait qu'un animal passe pour avoir... C'est un peu la méthode de l'affût en fait,
oui.
où on va se cacher et on va attendre de voir la vie sans appât quoi.
C'est ça, et ça nécessite quand même j'allais presque dire une attitude mentale, parce qu'il y a l'immobilité, il y a l'invisibilité aussi, et la patience. Tu parlais des
De toute façon, la prise de son a ceci de méditatif, quoi. En extérieur en tout cas.
Ouais. Et puis le côté s'identifier peut-être aussi avec le milieu naturel dans lequel on est, ou alors reproduire. Après, ça, c'est autre chose en studio.
Mais pour bien reproduire, il faut avoir conscience de ce que c'est au naturel.
Continuons à explorer les choix de mon invité après ça.
Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we've kissed a girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Oh, there's no blue Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday clothes.
Alors, est-ce que tu as reconnu, Geoffroy ?
Oui, c'est Broadway, mais avec des robots.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on vient d'entendre, Hein, en tout cas, le son, c'est Put on Your Sunday Clothes, une des chansons du film musical, comédie musicale Hello Dolly. Donc, le film a été réalisé par Gene Kelly en 64. Et non, ce n'est pas de comédie musicale dont tu voudrais nous parler, mais du film Wall-E. Alors, quel rapport avec la chanson Hello Dolly? Eh bien, Wall-E, petit robot fort sympathique, regarde la vidéo du film en boucle dans un futur très, très lointain. Alors, Wall-E, c'est un film d'animation en images de synthèse qui a été réalisé par Andrew Stanton et qui est sorti en 2008. C'était le 9e film des studios Pixar. Ça se passe en 2708. Et donc, c'est l'histoire de Wall-E, petit robot, dernier être sur Terre, chargé du nettoyage sur la planète désertée par ses habitants, qui l'ont enseveli, cette pauvre planète, sous les déchets. Et les hommes, donc les humains, ils sont partis sur le vaisseau L'Axiom, développé par la société BNL. Et son PDG leur dit « Trop de déchets sur Terre ? Il est temps de changer d'air. Des vaisseaux partent tous les jours. Nous veillerons à ce que tout soit propre à votre retour. » Alors, ça fait penser à Jeff Bezos, un peu, qui développe les vols habités et qui rêve de coloniser l'espace. Un petit rappel que ça continue un petit peu aujourd'hui. Sauf que la vie sur le vaisseau Axiom, elle n'a rien d'exceptionnel et de plaisant. D'abord, le voyage, il devait durer 5 ans. Et en fait, ils sont partis depuis 7 siècles. Les humains, ils sont devenus ultra sédentaires. Ils ne quittent plus leur fauteuil aéroglisseur et tout est devenu connecté. Ils ne parlent que par écran interposé. Ils font du sport virtuellement et ils ingurgitent à la paille et de la nourriture liquide. Donc, c'est des grosses boules qui ont perdu la faculté de marcher et de penser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une IA qui réfléchit à leur place. Alors, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est Otto, le pilote automatique qui a pris le contrôle du vaisseau et aussi de l'esprit et peut-être de l'âme des humains. Et c'est ce petit robot malin et facétieux qui va sortir les humains de leur torpeur. Alors Geoffroy, pourquoi ce choix ?
Ah, parce que d'abord, c'est une mise en avant du travail de Ben Burtt. Qui donc sound designer, bruiteur, il a fait énormément sur ce film. Ben Burtt, c'est quelqu'un qui a commencé chez Disney et qui a vraiment tout appris de Jimmy McDonald's, qui est un vieux monsieur qui lui avait une approche du son. Il a bruité sur les Mickey, voilà, et par la musique. En fait, il utilisait beaucoup d'instruments de musique pour recréer une locomotive, pour recréer. Enfin, il a inventé des gros barils avec plein de petites graines pour faire de la pluie, une machine à vent avec une tôle qui est sur un tube qu'on fait tourner en bois, etc. Et Ben Burtt, lui, est plus parti de son. Comment dire, la technologie avançant, il a pu sortir l'enregistreur du studio. Avant, c'était des grosses machines qui prenaient beaucoup de place et on ne pouvait vraiment pas les sortir dehors, un peu comme les caméras au départ, qu'on ne sortait pas du tout des studios. Et quand on a pu sortir l'enregistreur dehors, Ben Burtt a fait partie de ce mouvement, de cette école-là, et donc lui a préféré prendre des sons du naturel.
Okay.
C'est quelqu'un qui a commencé à œuvrer sur Star Wars par exemple et se rendre compte que sur les câbles du pont de San Francisco, quand on tapait dessus, qu'on mettait un micro qui était d'une nouvelle technologie qui permettait de capter la surface, ça allait faire le son d'un blaster, le son d'un pistolet laser, quoi. Et son qu'il a pu refaire d'ailleurs dans Wall-E sur différents moments où justement Wall-E envoie des sons de blaster qui là sont faits avec un ressort vraiment étendu sur lequel on vient taper.
Tout simple.
Voilà, mais il faut juste avoir la créativité, se poser la question, aller poser son oreille sur un ressort et se dire, tiens, si je faisais ce son-là.
La curiosité, ok. Il me semble qu'à l'Incroyable Studio, vous travaillez sur des films d'animation ?
Oui, tout à fait. Oui, il y a ça aussi, c'est que le film d'animation, il faut tout créer. Donc c'est une ère de jeu fantastique, vraiment. Et on a encore, et ça c'est super, la marge de manœuvre pour pouvoir créer, proposer, en fait, quitte à des fois aller trop loin, mais voilà, pouvoir vraiment proposer des idées.
Donc vous proposez aux réalisateurs, en
voilà,
fait.
Oui. 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 Mais parce qu'aussi, on a des pitchs. Voilà, il y a un cachalot au milieu d'un carrefour. La petite fille rentre à l'intérieur du cachalot. Quel bruit ça fait à l'intérieur d'un cachalot.
Mm. Voilà, c'est... Peu de gens ont vécu l'expérience ou du moins sont encore là pour en parler.
C'est ça.
Ok.
Sur comment dire, un programme qui est sorti là récemment, sur lequel on a travaillé, il y avait tout un...
Qui s'appelle
La quête des Willan, et ça s'est diffusé depuis samedi, ça a été multidiffusé France Télévisions, RTBF en Belgique et RTS en Suisse.
La quête des Willan.
La quête des Willan, okay. Voilà, c'est de la fantasy.
Ok.
Où on suit Camille à travers ses aventures. Et donc Camille a la capacité de dessiner et elle passe à travers ce qu'elle dessine. Elle se retrouve dans Gwendalavir.
Une petite Alice. Hein,
ouais, voilà, oui,
traverse.
et là, on change d'univers. On passe d'un univers, on est en plein cœur de Arles ou alors de Paris. On passe dans Gwendalavir. Et à travers ça, on a des moments où on change d'univers sonore. Et donc là, il fallait vraiment créer cet effet magie, en fait. Et où on vient perdre un peu le spectateur dans un couloir qui est entre deux univers. Quoi.
Et il faut combien de temps pour travailler ? Alors, par exemple, celui-ci, vous avez mis combien de temps pour créer le son ?
Alors, la quête des Willan, c'est pour la première saison. J'invite tout le monde à évidemment regarder cette première saison en allant bien jusqu'au bout de la lecture pour que France Télévisions en recommande une deuxième.
Ah voilà, ça marche comme ça.
Et c'est 8 épisodes de 26 minutes. Alors, ça paraît pour le grand public, 26 minutes, on se dit c'est un court métrage, ouais. Mais non, c'est vraiment plusieurs mois de création. Et pour le son, on en était à 5 mois. Ouais.
5 mois.
4 mois et demi, ouais.
Pour 8 épisodes.
Voilà,
donc,
c'est okay. Ça.
Pour créer 8 épisodes, c'est un travail artisanal finalement que vous faites.
Oui.
Bien sûr avec des moyens, une technologie moderne, mais
c'est
malgré
ça.
tout ce travail de et puis de complicité, j'allais dire, peut-être avec le réalisateur aussi, pour comprendre.
Oui, c'est ça. Là, en plus, c'est adapté d'après l'œuvre de Pierre Bottero. Il y avait même sur la quand on devait créer des créatures ou voilà qui apparaissaient, on avait quelques lignes justement qui nous indiquaient selon l'œuvre littéraire ce que ça devait être, mais sauf que ça n'avait jamais été adapté au niveau du son.
Mm-hmm.
Donc une grande attente de toute la fan zone de
ça de l'auteur.
Voilà.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma. Continuons à explorer les choix de mon invité après ça. Alors Geoffroy, tu as reconnu, je crois. Tu as reconnu très vite d'ailleurs.
Timothée Chalamet n'est pas avec nous.
Non, malheureusement. Ben ouais, il n'était pas disponible. Alors donc c'est un des sons de la BO du film Dune de Denis Villeneuve. Et la musique, elle a été composée par Hans Zimmer. Donc c'est une musique aux textures dissonantes qui nous invite à un voyage immersif, sensitif, comme l'ensemble du film au final. Donc Dune, au départ, c'est une œuvre titanesque en 6 tomes de l'auteur américain Frank Herbert, qui a dédié sa vie à l'écriture de cette saga, commencée en 65 et qu'il a terminée en 86. Son fils a continué après, d'ailleurs. Donc, il y mélange des références historiques, des éléments futuristes, et c'est devenu un classique de la littérature de science-fiction. Alors, les deux films de Denis Villeneuve sont adaptés du premier tome seulement. Donc, le noyau du récit. Donc, c'est l'affrontement entre différentes familles. J'essaye de...
Accrochez-vous.
Ouais, voilà. Suivez bien. Donc, c'est l'affrontement entre différentes familles de l'Empire galactique Imperium, dirigé par l'empereur Padishah, pour avoir le contrôle de l'épice. Alors, l'épice, pourquoi est-ce qu'ils la veulent tous? Parce qu'elle facilite la navigation interstellaire, elle booste la longévité et les capacités de préscience aussi de l'avenir. Et finalement, qui détient l'épice contrôle l'univers. Et l'épice se trouve sur la planète Arrakis, surnommée Dune, qu'au cœur donc de l'intérêt de l'Imperium. Mais un peuple autochtone, les Fremen, avides de liberté et voyant d'un très mauvais œil ses colonisateurs peu aimables, résistent. Et ce peuple, il est incarné entre autres par Shani, interprétée par la très talentueuse Zendaya. Et les Fremen, ils s'opposent en particulier aux plus méchants de la bande, les Harkonnen, assoiffés de pouvoir, qui pratiquent esclavage et torture à tour de bras. Et au centre de l'histoire, il y a le héros Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet. Donc il appartient à la famille Atreides qui convoite aussi l'épice. Donc Paul, il a un don de préscience, il se lance dans une quête spirituelle et il devra faire un choix entre pouvoir et vérité. Donc Denis Villeneuve, il a réussi à concilier les impératifs du blockbuster avec un casting hollywoodien, des scènes d'action et de combat assez impressionnantes, des effets visuels et sonores époustouflants, un tournage dans 4 pays, dont le désert Wadi Rum en Jordanie et Abu Dhabi pour la planète Arrakis. Donc à concilier ça et le cœur de l'œuvre de Herbert, qui est en fait un espèce de conte, une espèce de conte philosophique qui explore le pouvoir politique et aussi le versant écologiste de la domination des hommes sur la nature. Et l'humanité, elle est d'ailleurs vite remise à sa place de grain de sable dans l'immensité de la planète Arrakis. Et les questions soulevées dans la saga sur les puissants, la corruption du pouvoir, l'annexion guerrière de territoires, dépouillés de leurs habitants, dont on capte les ressources, ça reste terriblement d'actualité. Alors ça explique peut-être en partie le succès public et critique de ce film. Donc on attend avec impatience Dune 3, dont la sortie elle est prévue en décembre 2026, qui est l'adaptation du second tome de la saga. Alors Geoffroy, pourquoi ce choix?
Parce que ça met en avant un autre sound designer qui est assez inspirant, qui s'appelle Marc Mangini. Donc là, il s'est inspiré de l'œuvre, en se disant bah, comment je vais par exemple faire le son des orthoptères, mm-hmm. Oléoptères, je ne sais plus comment dire, pas en partant simplement de sons qu'on connaît, des hélicoptères tout ça, parce qu'il fallait vraiment une notion de battement, mais il fallait... Donc c'est aller se poser la question de quel instrument on va pouvoir choisir. Donc il a choisi un instrument où on peut régler des élastiques et en le faisant tourner, on arrive à ce son-là. Alors, il faut juste voir que la création sonore, c'est surtout plusieurs strates qui s'empilent les unes au-dessus des autres et c'est comme ça qu'on arrive à un son. Et il a pu, lui, gérer toute cette partie-là, mais il faut savoir aussi que sur Dune, il y a aussi une grande partie de recherche. Et ça, c'est vraiment très précieux. C'est partir voilà, dans le Sahara et taper sur le sable et à différentes distances de la source, de capter et de chercher en fait tout simplement et avoir cette occasion là de ramener ces rushs là et un petit peu de vérité finalement,
oui.
c'est
d'authenticité
très, très, voilà, c'est très très important parce que au final le ver quand il engloutit le ver de sable, Marc Mangini lui a utilisé à la fois avant que le ver arrive, il y a voilà, ce qui lui permet d'interagir. C'est une petite base là, qui tape sur le sable. Et une fois que le ver est là et qu'il engloutit, là, il a pris un petit micro lavalier, ses petits micros tête d'épingle, qu'il a mis dans sa gorge, justement, pour arriver à avoir l'aspiration.
Ah, le bruit de...
Là, c'est le ver quand il aspire.
Ah, le ver quand il... Oui, d'accord. Ouais. OK.
Donc voilà, c'est finalement, c'est un petit peu des deux qui fait que ça arrive. Enfin, du naturel et de la bidouille.
Et puis il avait peut-être, ce qu'on disait aussi, carte blanche. Enfin, c'était une grosse production, donc ils ont eu le temps aussi de proposer aux équipes de oui. travailler sur ces
mais
sons.
Souvent, les gens fantasment le fait que le son arrive après et qu'on fait les choses après, mais sauf que non, en fait, on est là du départ, on est là avec les réalisateurs et réalisatrices pour parler de leur film, pour parler de l'univers, et on avance petit à petit. Quand eux construisent les décors, nous, on pose les ambiances, on va chercher des ambiances, quand ils commencent à faire le montage des scènes et à se rendre compte, bah voilà, il faut qu'il ait une combinaison, qu'il récupère sa transpiration et comme ça il peut se réhydrater tout seul. Est-ce que tout ça fait un petit bruit et comment on le fait vivre au niveau du son, etc. Donc on avance vraiment ensemble. Mmh. Et ça va vraiment jusqu'au moment où après il faut remettre les voix qu'on a captées sur un plateau sur fond vert ou dans des décors dont on n'appréciait pas forcément la résonance et on vient recréer effectivement.
Alors je crois qu'il y a eu très peu de scènes tournées sur fond vert pour Dune. Il y a eu beaucoup de choses en extérieur et volontairement, comme tu le disais, Denis Villeneuve voulait être au plus près en fait des éléments naturels et puis avoir capté cette authenticité qui est pas forcément qu'on ne voit pas dans tous les films en tout cas.
Oui, c'est ce qui est plutôt intelligent.
Ouais, vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma.
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, La Vie en Rose.
Avec toi, Geoffroy, de ton travail autour du son. Ça a commencé comment ?
Je dirais formation musicale quand j'étais petit, par les instruments. Et moi, j'avais un gros instrument, j'avais un piano. Et la possibilité de démonter le piano, vous voyez, pour voir les cordes.
Ah oui, c'est venu vite, ça, alors. Il n'y avait pas que les touches, ce qu'il y avait derrière.
C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait... Dans ma formation au conservatoire, on passe aussi par le contemporain, et dans le contemporain il y a le piano préparé dans lequel on vient mettre des pinces à linge sur les cordes, voilà, et pour avoir des sons un peu bizarres et tout. Et là on se rend compte qu'un instrument peut faire aussi des sons sans être forcément harmonieux. Donc ça, oui, je pense que ça a été un petit début. Je pense que la suite des événements, c'est l'acquisition. Enfin, on m'a offert une année à un enregistreur et entendre les sons du quotidien à travers un micro et un casque, ça change la perception et ça amène sur un terrain de jeu infini et que vraiment moi j'ai bien apprécié. J'ai commencé ensuite à travailler dans un studio de musique. C'était le dernier producteur de Gainsbourg qui avait ce studio, donc là ça m'a ramené à la musique, à différents groupes qui venaient enregistrer.
Plus classique, on va dire.
Voilà. Ouais. Mais du coup, pour chaque instrument, il y avait des micros un peu dédiés. et un peu comprendre voilà, quel micro je vais utiliser pour quel instrument. Alors, des fois, il y avait un groupe du Cameroun, je me souviens, qui était venu avec un Mvet, qui est deux calebasses avec des cordes tenues avec du raffia. Ça se désaccorde toutes les quatre mesures, c'est terrible. mais ça fait partie du son. Le marimba aussi, avec ce bzz bzz à chaque fois, où on se dit mince, il y a un problème, mais non, ça fait partie du son. Donc c'est bien ça, ça ouvre vraiment. Et ensuite, j'ai bifurqué un peu justement vers le documentaire animalier où on enregistrait surtout les voix.
Mmh. Pardon, tu avais fait une formation pour ça ou pour intégrer
oui, j'ai fait un BTS audiovisuel.
D'accord.
Qui formait justement à la radio, à la télé, au studio.
Okay.
Voilà, c'était assez large. C'est sur 2 ans. Chaque année, on fait un stage de plusieurs semaines. C'est très immersif et en fait. Ça permet vraiment de faire ses premières armes. Et moi, j'avoue, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui, de suite, voulait faire confiance, donner les manettes et tout ça. Mmh. C'est la bonne école. Enfin, voilà, il faut pratiquer. Quoi.
Oui, parce que dans l'incroyable studio, il y avait à la fois montage et mixage, si j'ai bien compris.
Pour le son ?
Oui, pour le son. C'est quoi la différence, en fait ? Je suis néophyte, hein, donc...
Moi, j'accompagne les réals du début à la fin de leur film. Mm-hmm. C'est ça, superviseur sonore, c'est qu'on discute de l'univers de leur film, de ce qui va se passer dedans, des différentes actions. Et après, on définit justement comment on va travailler dessus. D'abord, il y a la production, c'est-à-dire aller chercher des sons et des ambiances, parce qu'on travaille assez peu avec des banques de sons, on préfère aller chercher nos sons.
D'accord, ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais c'est diablement plus efficace et qualitatif.
Oui, bien sûr.
Et ensuite, donc ça, c'est quand eux fabriquent les décors. Souvent, on parle de films animés. Hein. Et donc là, on définit un petit peu justement les décors et des fois qu'on a besoin de modifier parce que justement, voilà, sur la quête des Willans, on est sur des grillons qui ne sont pas humains, enfin sur la Terre, mais dans un autre monde, donc on doit un petit peu les modifier, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être les SFX, les effets liés au son. Et ensuite, les personnages à l'intérieur ont des actions. Et là, on passe par le bruitage. Encore une fois, très très long de scroller des heures durant pour trouver un son, mais on n'aura jamais le geste, on n'aura jamais l'intention. Mmh. C'est là tout l'intérêt du bruitage, c'est de reproduire ce geste. Le bruiteur se met dans l'acting. Mmh.
Et donc l'IA ne suffit pas.
Non, parce que c'est comme si vous demandiez à un menuisier comment il rabote. Enfin voilà, c'est une machine peut le faire, mais elle va juste copier un geste. C'est-à-dire que vous aurez le même son de hennissement de cheval dans tous les films.
Oui.
Et il y a une certaine satisfaction à aller en chercher un et à voir justement que le cheval, avant d'hennir, bah, il va grommeler un petit peu et après il va avoir une respiration un peu compressée. Et en faisant écouter ça au réal, bah, il va se dire ah, tiens, moi dans mon anime, je vais peut-être rajouter un petit peu quelque chose qui est un peu avant ou un peu après et ça va faire rendre l'action vivante.
Mmh.
Et pareil pour le bruitage. Quelqu'un qui boite un petit peu, quelqu'un qui a vraiment du poids, quelqu'un qui je sais pas, sort énervé d'une pièce, enfin tout ce qui est lié au sentiment et à l'action,
ouais.
Un micro et un bruiteur, c'est vraiment beaucoup plus efficace.
Ouais. Ouais.
Et ensuite... Donc,
pourvu que ça dure.
Oui.
Vraiment.
Et
mais je pense parce que l'IA n'est pas encore au point de pouvoir effectivement reproduire finalement les émotions. C'est quelque chose qui... Parce que tu parlais de cette sensibilité, des bruits uniques finalement.
Oui, c'est ça. Mais c'est en fait là où on peut se défendre, c'est sur la recherche de vérité.
Oui.
Et ça, c'est primordial. Et tout ça là, tout ce dont on vient de parler, ça fait partie, ça va dans le montage. On monte sur la timeline tous ces sons. Qui okay. sont catégorisés en plus des voix. On reçoit ensuite les musiques. Et une fois qu'on a donc les voix, les effets, les bruitages, les ambiances, les musiques, on passe au mixage. Le mixage va nous permettre de mélanger tous ces sons et de faire des choix. Voilà. Est-ce qu'on va assombrir certains sons ? Est-ce qu'on va en mettre d'autres plus en avant ? Est-ce que là, c'est la voix qui va être primordiale ? Ou alors elle va être étouffée ? Ou alors elle va être passée dans une réverbe ? Ça va partir à droite, etc.
D'accord.
C'est la spatialisation, tout ça, c'est le mixage.
D'accord.
Comme là, actuellement, France oui. mixe nos voix.
D'accord. Alors, tu as apporté des petits objets, je vois des choses là pour faire des petits travaux pratiques de son. Donc, je te laisse me guider parce que je vois des petites choses. Alors, apparemment, c'est des objets que tu m'as dit que tu vas chiner un peu à droite.
Oui, oui. Emmaüs est mon ami. Oui.
Ah, ben bah, voilà. Vive Emmaüs. Ah,
ce qui est intéressant, oui. C'est que tu décrives peut-être l'objet qui est devant toi. Et...
Alors, devant moi, il y a une brosse. Je ne sais pas si c'est une brosse à reluire ou une brosse à... chaussures, ou je ne sais pas. Il y a un plat.
Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ?
Un plat en... Je ne sais pas ce que c'est comme matière, les plats de cerf.
Je te propose de faire un train avec ça.
Ah, un train ! Alors, vas-y, je suis.
Comme dans la vie, hein, tout est une question de rythme. Mm. Il faut que tu fasses...
Oui.
Tu me dis quand tu veux qu'il siffle.
Ah, le train sifflera trois fois. Train à vapeur.
Là, on est clairement dans le... on est clairement dans le bruitage un peu lié au cartoon ou à la radio.
C'est ça.
Où on accepte que ce ne soit pas vraiment le bruit d'un train, mais ça nous y fait penser.
C'est ça, c'est la suggestion, finalement, par le bruit. Alors, il y a un autre petit objet, alors je ne sais pas trop.
Là, il faut qu'on le fasse à deux, regarde.
Ça ?
Ouais, il faut que tu le...
Je tourne ?
Oui. Ah, tu peux décrire ce que c'est, mais...
Alors, je sais pas à quoi ça sert, en fait. C'est un instrument de cuisine, je pense, non ? Ouais. Un peu comme pour râper les carottes.
En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le petit couinement. Là.
Ah oui, c'est ça.
Et alors, si tu,
on dirait
une
petite...
si tu le fais doucement comme ça, on va peut-être pouvoir faire quelqu'un qui rentre dans un magasin. Tu fais comme si tu faisais l'ouverture d'une porte. Petit dernier.
Oui, allez, un petit dernier. Donc, il y a une boîte en bois, hein, comme qui ressemble un peu à un vieil encrier. Et Geoffroy est en train de sortir des petites choses de sa boîte.
En ce moment, on travaille aussi sur une série dite slapstick qui s'appelle La Famille Wheezy. C'est du cartoon, c'est Bibi Pécoyote.
Ok, voilà. Avec Savery.
C'est ça. Ouais. Et donc, on a beaucoup de sons comme ça où les personnages doivent s'étirer.
Ah !
Comme ça, par exemple.
Super. Alors, c'est juste, moi j'ai ça sous les yeux, c'est juste un petit portefeuille en cuir, quoi. Incroyable.
Et généralement, une fois qu'ils se sont étirés comme ça, ils se font catapulter.
Ah oui, oui, ça c'est.
Et après, super. Évidemment, ils arrivent par terre et ils en ont...
Ah bah, ils tombent.
Ils ont la tête qui tourne.
Ah ouais, c'est ça. On voit la petite bulle.
Exactement.
BD.
Oui, ils se font...
Des onomatopées. Ok.
Celui-ci marche bien aussi.
Ah oui, ça c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais.
Et ben voilà. On passe notre temps, mais je crois que c'est un peu lié à la création, entre notre envie personnelle et l'inconscient collectif. Vous avez l'habitude d'entendre ce son-là, et nous, on aime bien rajouter notre petite touche, rajouter le petit truc qui fait qu'on va se dire « Ah tiens, ce son-là, c'est moi qui l'ai fait. » Et c'est vraiment le bruitage, c'est essentiellement ça, c'est trouver la bonne idée.
Ouais.
Le truc qui va faire...
Ouais.
Sourire ou qui va fonctionner en fait.
Ouais. D'accord. Et vous refilez des astuces entre vous.
Oui, il y a des façons de faire qui peuvent être communes, mais le plus intéressant c'est de trouver ses propres sons quoi.
D'accord. Et toi par exemple, ce serait quoi le son dont tu es le plus fier ?
Là, il y a cet étirement là.
Ouais, étirement avec le petit.
Mais ça c'est un peu une trouvaille.
Portefeuille en cuir, hein, ça c'est génial.
Oui, c'est ça.
Ouais,
et qui a bien vécu et en fait je sais que c'est le mien. J'ai un étui à violon comme ça qui me permet de faire les grincements des grands bateaux là qui craquent
dans
tous les sens. Tu as violon est en bois, mais
il est
fendu au milieu. Et il a des pièces métalliques, la poignée grince aussi, c'est un instrument à lui tout seul. Et je l'utilise pas mal. Et il y a un bruiteur qui a trouvé comment faire un crapaud en faisant sa vaisselle. En mettant ses doigts dans un verre un peu mouillé. Et puis il y a des sons après qu'on passe des années à chercher.
Ouais, La quête. La quête du son, parfait ou pas d'ailleurs. Mais... ou la quête des sons. Et est-ce que tu as des projets, Geoffroy ? Donc tu nous parlais là, de ces dessins animés là, sur lesquels vous êtes en train de travailler ou
oui, autre chose ? Le studio est enfin l'écriture est terminée sur l'adaptation d'une bande dessinée. Pareil sur plusieurs épisodes, donc là en série. On a aussi un projet de long métrage et différents courts métrages aussi qu'on suit. Il y a plusieurs réalisateurs, réalisatrices qu'on aide et qu'on aime bien suivre justement. Voilà, vous avez un film qui est sorti là il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mise en culture et récolte et dispersion des épines.
Le titre okay.
Très long, de Jeanne Gira.
Oui, ouais.
Et ça, c'est un film un peu laboratoire où on était avec la réalisatrice autour du micro, un peu ASMR. Voilà, essayer de trouver des sons petits mais justes et qui après forment une petite musique dans son film.
Ouais.
Donc oui, différents projets.
Bon. Tant mieux, ça continue, la créativité, l'inventivité. En tout cas, merci Geoffroy pour ce précieux témoignage sur ton métier, ton travail passionnant. Et puis, on peut aller voir aussi sur le site de l'Incroyable Studio ce que vous
oui.
proposez, ce que vous faites. Et puis, on rappelle peut-être le film, l'actualité.
La quête des Willans.
Voilà, la quête des Willans à voir sur France Télévisions.
Exactement. Hein. Surtout, en plus, le studio a participé à créer l'image et au niveau du son, on a vraiment fait l'intégralité.
Super.
Sauf la musique, pardon, j'ai oublié de dire.
Sauf la musique.
Et les voix qui sont enregistrées à Paris.
D'accord. Ok. Vous faites aussi du doublage, non, dans l'Incroyable Studio ?
Eh bien, on ne fait pas du doublage, on fait de la création voix.
Ah, création voix, d'accord.
C'est-à-dire que nous, les animateurs,
oui.
Dessinent sur la voix. C'est-à-dire qu'on enregistre les comédiens. Ensuite, les animateurs vont venir animer en fonction de l'audio qu'ils ont reçu.
Ok.
Donc d'autant plus sur les lèvres des personnes.
On suivra le travail de l'équipe de l'Incroyable Studio. Et voilà, très, très créatif. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle sur et pour le cinéma.
Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Plus besoin du protocole et tous les longs discours. qui rendent les gens heureux.
Cet hiver à la grisaille tenace, venez vous réchauffer devant les écrans de vos salles préférées qui nous proposent encore de riches programmations et événements en tout genre qui ne pourront que vous plaire et dont j'ai fait une petite sélection. Alors au Concorde à Nantes, pour se plonger dans la vie et l'œuvre de George Orwell et comprendre comment sa pensée visionnaire des régimes totalitaires fait terriblement écho aujourd'hui, allez voir 2 plus 2 égale 5, le dernier film documentaire du grand réalisateur Raoul Peck, dont on avait adoré I'm Not Your Negro et Ernest Cole, photographe. Comme toujours, le montage est hallucinant et le film est éclairé en voix off par les seuls écrits de George Orwell. Toujours au Concorde, vous pourrez découvrir le 18 mars, en avant-première, le très touchant film Julianne avec Nina Meurice, une histoire d'amour incandescente et bouleversante de la réalisatrice belge Cato Kester, d'après l'histoire vraie de Fleur Perret. Au cinéma 14 à Nantes, ne manquez pas le dernier film de Mariam Touzani, dont on avait adoré le bleu du caftan. Et dans le film Rue Malaga, elle met en scène la grande actrice Carmen Maura dans une quête de souvenirs qui se déroule à Tanger. Toujours au 14A, en famille, allez découvrir ou redécouvrir le drôle et facétieux film d'animation de Tim Burton, du génial Tim Burton, James et la peste géante, adaptation du génial livre de Roald Dahl, avec des trésors d'inventivité visuelle dans ce film de 1997. Au cinéma Saint-Paul, à Rezé, le film Soulèvement de Thomas Lacoste est reprogrammé, vu son succès, le 4 mars. Un documentaire émouvant, portrait salutaire d'un mouvement intergénérationnel dont la lutte pour la sauvegarde des biens communs s'invente avec audace jusqu'à être criminalisé. Au cinématographe, jusqu'au 15 mars, vous pourrez voir une sélection de films pour petits et grands autour de l'exposition de la super expo Sorcière qui vient de commencer au musée du château de Nantes. Donc ça va de Macbeth d'Orson Welles en passant par Le Magicien d'Oz jusqu'au Voyage de Chihiro. Et toujours au cinématographe, vendredi 13 mars et dimanche 15 mars, séance de rattrapage pour ceux qui auraient loupé le dernier magnifique film des frères Dardenne, Jeune Mère. Suivi d'un échange avec Sylvie Babin, auteure du livre « Les maternités impensables » et de la psychologue Anne Frétion. Et plein d'autres riches programmations pour cette fin d'hiver. Programmations divertissantes, émouvantes, éprouvantes, éclairantes, résistantes. Alors surtout, gardez intact votre appétit de cinéma pour continuer à faire vivre dans nos salles préférées, les films et les salles préférées partout dans le département. Merci beaucoup Geoffroy d'avoir passé ce moment en notre compagnie.
Merci à toi.
Et bon vent à toi dans toutes tes recherches et créations sonores.
Et bon vent à JTFM.
Oui, merci. Et merci à Franz pour son accompagnement technique essentiel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Film et moi, en direct tous les derniers mardis du mois ou en podcast sur le site de Jet.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.